Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
La révolution Trump à l'échelle européenne en pleine négociation sur l'Ukraine, la défense, le renseignement sont impactés tout comme le commerce. Mais aujourd'hui, on parlera des ONG qui ont vu toutes leurs subventions coupées. Le Groenland aux urnes demain, un scrutin marqué aussi par les déclarations du président américain et le débat sur l'indépendance. Et puis l'Autriche a enfin un gouvernement. Voilà le programme d'Accent d'Europe aujourd'hui. Bonjour, rapide et radical, tout comme toutes les initiatives de Donald Trump depuis son arrivée au pouvoir. Du jour au lendemain, tous les financements des programmes d'aides internationales de USAID ont été arrêtés. Un choc pour de nombreuses ONG, y compris en Europe. En Ukraine, ce sont les associations d'aide aux vétérans et à leurs familles qui doivent se réorganiser. À Kiev, une de nos correspondantes, Cerise Sudry-Ledu, est allée à leur rencontre.
C'est une femme d'une cinquantaine d'années, Svitlana, qui entame la mélodie. Elle a perdu son mari au front en 2023. Rapidement, d'autres femmes se joignent à elle. Certaines sont les compagnes de combattants, d'autres ont elles aussi perdu leur mari dans la guerre. Ce projet émane de Veteran Hub, l'une des principales organisations ukrainiennes qui vient en aide aux anciens combattants et à leurs familles. Depuis 2018, l'association leur propose un accompagnement psychologique et juridique, réalise des études et conçoit des guides sur des sujets aussi variés que le parcours médical ou la vie intime après un traumatisme. Depuis le début de l'invasion à grande échelle en 2022, même si aucun chiffre officiel n'est avancé, le nombre de vétérans a explosé. Jusqu'à présent, l'organisation fonctionnait aux deux tiers grâce à des financements américains, brusquement suspendus il y a quelques semaines par l'administration Trump. Ivona Kostina est l'une des cofondatrices de l'organisation. Elle décrit l'arrêt brutal du numéro d'urgence qui permettait aux vétérans de recevoir de l'assistance ou des conseils précis.
Nous avons dû immédiatement arrêter de travailler sur plusieurs projets. L'un d'eux était la ligne de confiance, une ligne téléphonique qui reçoit environ 1300 appels par mois, ainsi que notre centre communautaire de Vinnytsia, qui accueille environ 700 visiteurs chaque mois et propose 250 services aux personnes. Et nous n'avions aucune perspective d'avenir.
André Custer a lui aussi fondé une association pour aider les vétérans. Lui-même en est un et connaît les défis de ceux qui reviennent du front. En septembre 2023, alors qu'il était du côté de Marinka dans le Donbass, une bombe a atterri dans son véhicule. Son camarade est mort dans ses bras, lui s'en est sorti miraculeusement, même si des éclats d'obus sont restés plantés dans sa peau et qu'une partie de son épaule est désormais en titane. Après une convalescence de 6 mois, il a fondé Strong Trista, le terme utilisé pour désigner les soldats blessés en Ukraine, qui propose plusieurs programmes d'aide aux vétérans. Là aussi, beaucoup ont été stoppés net.
Je venais juste de planifier mon année à venir. J'avais 3 projets intéressants. L'un portait sur la réhabilitation, un autre sur l'éducation et le troisième sur le sport. C'est très difficile car lorsqu'on s'attend à quelque chose et que tout s'effondre, il faut tout recommencer du début.
Pour lui, l'attitude de Donald Trump et du gouvernement américain n'est pas à la hauteur.
C'est étrange car ce n'est pas l'attitude d'un véritable partenaire. Si vous avez des problèmes avec l'USAID, la première chose à faire serait peut-être de mener un audit pour comprendre ce qui se passe avec l'argent et éventuellement de fermer certains programmes, mais pas de tout couper d'un coup. De vrais partenaires ne font pas cela.
Reste que pour beaucoup, les déclarations de Donald Trump, souvent fluctuantes et inattendues, ne font pas le poids face à l'urgence de la guerre à mener. Vladislav Juravel, vétéran depuis 1 an et demi suite à une tumeur au foie, résume bien le sentiment général.
Je pense que c'est une nouvelle épreuve. Elle est difficile, mais nous la surmonterons. C'est difficile, mais autant que je me souvienne, ça a toujours été dur. Et chaque fois, c'est de pire en pire. Mais d'une manière ou d'une autre, on tiendra le coup.
Cet habitué de Veteran Hub, qui participe notamment au cercle de parole en anglais et fait la promotion des activités de l'organisation, continuera à s'y rendre. Et pour la cofondatrice de Veteran Hub, pas question d'attendre.
Nous sommes un prestataire de services. Nous ne pouvons pas nous permettre d'attendre. Nous recherchons actuellement des entreprises ukrainiennes et des donateurs internationaux qui pourraient intervenir à partir d'avril afin de garantir que ces services ne s'arrêtent plus. Je me sens résiliente et je vois que mon équipe l'est aussi. C'est notre guerre. C'est une guerre existentielle pour nous. Et nous continuerons à jouer notre rôle pour nous assurer que ceux qui combattent reçoivent un soutien digne à leur retour.
Déjà, des entreprises ukrainiennes ont commencé à tenter de prendre le relais.
Autre territoire très impacté, la petite République de Moldavie, frontalière avec l'Ukraine, un des territoires les plus pauvres d'Europe, candidat à l'entrée dans l'UE. Washington subventionnait plusieurs ONG de défense des droits humains et de liberté d'expression dans un pays où Moscou orchestre de vastes campagnes de désinformation. Le plus grand quotidien d'investigation moldave perd donc son principal soutien financier et va devoir trouver d'autres donateurs. Notre correspondante Maria Gert Niculescu s'est rendue dans leur rédaction.
Les locaux du journal Ziarul de Gardă se trouvent au fond d'une cour dans le centre-ville de Chișinău, la capitale moldave. Dans la petite salle de rédaction, les journalistes, beaucoup de jeunes, sont concentrés sur leurs écrans. La cofondatrice du journal, Alina Radu, nous accueille dans son bureau avec une tasse de thé.
Le journal de Garda a été fondé il y a 20 ans. C'est le premier journal d'investigation à avoir été créé en Moldavie. Et chaque année, nos enquêtes et nos reportages montrent leur impact, car ils débouchent sur des actions en justice contre les personnes corrompues, des licenciements ou des suspensions de personnes corrompues, des enquêtes pénales. Et pour nous, c'est un signe que notre journalisme est nécessaire.
La Moldavie est un petit pays de 2,4 millions d'habitants et un des plus pauvres d'Europe. Alors pour financer ses enquêtes, le journal s'appuie sur des organisations qui soutiennent les médias indépendants. 40% de leurs fonds provenaient indirectement de l'aide étrangère américaine suspendue par Elon Musk en janvier.
Quand les messages sur l'arrêt des financements américains sont arrivés, nous avons d'abord eu du mal à y croire. Je suis très contrariée, car à la fin de l'an dernier, j'avais planifié toute notre activité pour 2025. Ce projet est désormais en ruine. J'espère que nous allons trouver des moyens pour que ces jeunes reporters ne perdent pas confiance dans le fait qu'ils sont utiles est nécessaire à cette rédaction, à la Moldavie et à la démocratie.
Les investigations du Ziarul de Gardă sont bien connues en Moldavie, où la lutte contre la corruption reste insuffisante malgré les efforts de la présidente pro-européenne Maia Sandu. Certaines enquêtes ont même été reprises par des médias internationaux, comme celle menée par Natalia Zaharescu et Mariuța Nistor avant l'élection présidentielle de 2024. Elles ont infiltré le réseau de l'oligarque pro-russe Ilan Shor et révélé une vaste opération de corruption électorale. Environ 140 000 personnes auraient reçu de l'argent pour voter contre Maia Sandu et contre l'adhésion à l'Union européenne. Pour Natalia, l'arrêt des financements du USAID et la désinformation qui a suivi compliquent davantage le travail des journalistes.
Cela a créé une grande pression publique sur la presse indépendante. C'est parti des déclarations aux États-Unis comme quoi USAID serait une organisation criminelle. Des déclarations sans preuve, mais qui ont eu un impact en Moldavie. Ça s'est traduit par une pression sur les journalistes. Nous voyons que certaines personnes, surtout des politiciens, seraient très heureux de voir que certaines sources d'information du public se retrouvent sans financement.
Mais pas question de se laisser abattre. Le Ziarul de Gardă cherche de nouvelles sources de financement et le journal poursuit ses activités, y compris en russe, la seconde langue la plus parlée en Moldavie, après le roumain qui est la langue officielle. Un service dirigé par Olga Bulat.
Nous avons beaucoup de russophones, y compris des personnes âgées qui ont été scolarisées à l'époque soviétique et qui ont encore cette mentalité soviétique. C'est pour cela que c'est très important de communiquer dans la langue parlée par les citoyens du pays pour qu'ils aient aussi accès à l'information actualisée.
Une alternative essentielle puisque la plupart des médias russophones diffusent la propagande du Kremlin, en particulier dans la région de Transnistrie dans l'Est, autoproclamée indépendante, et en clan Gagaouzie, territoire autonome dans le sud. Alina Radou.
Alors que les financements ont été coupés pour une quinzaine de rédactions indépendantes, les médias financés par la Russie pour promouvoir la désinformation n'ont pas été affectés. Ils continuent d'opérer et nous suivons cela et voyons qu'ils sont devenus particulièrement actifs ces dernières semaines.
À l'approche des élections parlementaires de 2025, qui devraient se tenir d'ici l'automne, la lutte contre la désinformation apparaît plus cruciale que jamais. Selon les derniers sondages, les partis pro-européens pourraient perdre leur majorité. Un résultat qui déterminera l'ancrage géopolitique de la Moldavie et pourrait remettre en cause son rapprochement avec l'Union européenne.
On n'a pas fini de dérouler l'impact de la déferlante Donald Trump. On se souvient de ses déclarations martiales sur le Groenland, qu'il disait vouloir récupérer, y compris par la force. Le territoire autonome sous tutelle danoise vote justement demain pour des législatives. On retrouve notre correspondante en Scandinavie, Ottilia Ferré. Bonjour, Ottilia.
Bonjour.
Quelle place a occupé la question de l'indépendance dans cette campagne ?
Alors l'indépendance est clairement au cœur du débat politique, c'est même l'enjeu principal de ces élections. Le Groenland, territoire autonome sous souveraineté danoise, y aspire depuis maintenant de nombreuses années. L'indépendance, oui, mais pas à n'importe quel prix. En 2017, déjà 70% des Groenlandais ne voulaient pas que cette indépendance engendre une baisse de leur niveau de vie. Les différents partis ne sont donc pas tout à fait d'accord sur quand obtenir cette indépendance et comment, car il faut d'abord que le Groenland trouve de quoi compenser l'aide financière danoise, qui représente pas moins de la moitié des recettes publiques de l'île. Certains, comme le parti indépendantiste Naleraq, estiment que la solution se trouve dans l'exploitation minière. Le territoire possède en effet de grandes ressources naturelles, pour l'instant quasiment inexploitées. Mais cette pratique n'est pas particulièrement écologique ni durable, c'est ce que rétorque la gauche. Il faut aussi dire que le Groenland fait face à de nombreux problèmes sociaux. Le chômage est élevé, tout comme le nombre de sans-domicile fixe, et le territoire compte l'un des taux de suicide les plus élevés au monde. À cela s'ajoutent de sérieux problèmes de santé publique, mais ces questions ont été reléguées au second plan. L'accent, il est plutôt mis sur les relations à entretenir ou non avec le Danemark et les États-Unis. En temps normal, il faut dire que ces élections passeraient totalement sous les radars, mais les menaces de Trump ont mis ce territoire isolé de 56 000 habitants sur le devant de la scène politique internationale. D'ailleurs, les Inuits ne devaient au départ voter qu'en avril, mais la pression américaine a avancé cette date du coup au 11 mars. Dans un sondage datant de janvier dernier, le parti de gauche pourrait obtenir environ 31% des voix et devancer le parti au pouvoir, les Siumut, d'environ 9%.
Et cet intérêt justement pour le Groenland, Ottilia, a mis les services secrets en alerte pour ces élections. À quel sujet ?
Oui, tout à fait. Les services de renseignement du Danemark se sont dit inquiets et craignent une possible influence étrangère lors du scrutin, une influence venue de Russie, de Chine ou des États-Unis. Depuis quelques semaines, les services de renseignement ont identifié de nombreux faux profils sur les réseaux sociaux qui se sont fait passer tour à tour pour des responsables politiques danois ou groenlandais. Et les fausses informations, eh bien, elles aussi foisonnent. Je rappelle aussi qu'en janvier dernier, au Groenland, des influenceurs pro-Trump s'étaient rendus sur place et avaient distribuer des casquettes Make America ou Greenland Great Again, ainsi que des billets de 100 ou 500 dollars aux passants dans la rue.
Et les propos de Donald Trump ont participé à tendre encore un peu plus les relations entre les États-Unis et le Danemark, qui gère le Groenland, territoire autonome.
Tout à fait. En fait, Trump n'a eu de cesse d'entretenir le flou sur le statut de l'île arctique. En fait, il essaye d'affaiblir ainsi les liens entre le Royaume du Danemark et le Groenland afin de gagner en influence. Sauf que ça fait déjà très longtemps que le Groenland est déjà déterminé à se libérer de la tutelle du Danemark. Par contre, le moins que l'on puisse dire, c'est que les Groenlandais n'ont aucune intention de devenir américains. Voici ce que disait par exemple Kira, une étudiante de 25 ans sur place à Nuuk, la capitale groenlandaise, en janvier dernier.
Tout ça nous fait bien rire, mais nous ne sommes pas des objets. On ne veut pas être doublement colonisés. On veut être nous-mêmes et le moment est venu.
On le comprend bien dans ce que dit Kira, les Groenlandais veulent profiter des projecteurs que Trump a braqués sur eux pour obtenir leur indépendance. 43% des habitants considèrent d'ailleurs l'intérêt de Donald Trump pour leur île comme une opportunité pour se séparer définitivement du Danemark. Kupanu Kolsen, 40 ans, est influenceuse, c'est même la plus grande influenceuse du Groenland, et elle est aussi candidate aux élections sous la bannière de Naleraq, le parti d'opposition et indépendantiste, et elle se réjouit presque de la situation.
L'intérêt manifesté par Trump pour le Groenland est comme un moment de grande prise de conscience. Les Groenlandais commencent vraiment à se rendre compte qu'ils ont beaucoup plus de valeur qu'ils ne le pensaient. Je vois ça comme une chose très très positive.
Le parti Naleraq est le plus grand parti d'opposition et a nettement gagné en popularité ces derniers mois grâce à sa politique indépendantiste et à sa volonté apparente de collaborer avec les États-Unis. Le parti de l'actuel Premier ministre a lui promis un vote sur l'indépendance dans la foulée de ces élections, un référendum totalement autorisé par la loi danoise depuis 2009 et un référendum qui pourrait aussi l'aider à attirer plus d'électeurs et peut-être lui permettre de choisir le prochain Premier ministre.
Après 5 mois de blocage, de négociations, d'atermoiements, l'Autriche a enfin un nouveau gouvernement et un nouveau chancelier conservateur, Christian Stöcker. Bonjour Daniel Valot.
Bonjour.
On peut dire que c'est un quasi-inconnu qui s'est imposé à l'issue d'une crise politique sans précédent.
Oui, tout commence par les élections de septembre et le résultat du FPÖ, le parti d'extrême droite autrichien, qui arrive en première position avec 29% des voix pour leur barrer la route. Les conservateurs de l'EVP, arrivés en deuxième position, essayent de monter une coalition avec les socialistes et les libéraux sans y parvenir. Au bout de 4 mois de tractations et en désespoir de cause, ils se tournent vers un élu local, Christian Stöcker, qui est alors le secrétaire général de l'EVP, un ancien avocat de 64 ans et un homme politique discret dont très peu de monde avait jusqu'alors entendu parler. Il n'a aucune expérience gouvernementale et pour couronner le tout, il ne brille ni par son charisme ni par ses talents d'orateur. Sa seule particularité étant d'apprécier la pêche à la ligne et le saxophone. Andreas Heisel, chercheur à l'Institut Jacques Delors.
C'est clair si on le compare avec des personnages comme Sébastien Kurz, notamment, qui était avant chancelier des conservateurs. C'est vrai que, à premier abord, il n'a pas vraiment l'air d'être très, très charismatique. Et en fait, je pense qu'au début, c'était même pas trop prévu que ce sera lui qui sera forcément un chancelier. En fait, il est arrivé là au pouvoir à cause d'une manque d'autres personnalités, d'une certaine manière.
Et on peut dire que lui-même a été le premier surpris de se retrouver dans cette position, Daniel.
Oui, il raconte d'ailleurs qu'en janvier dernier, le jour où il apprend qu'il va diriger les négociations pour tenter de devenir chancelier, il est à Vienne en jean et en pull-over et il doit donc demander en catastrophe à ce qu'on lui apporte un costume et une cravate. Christian Stöcker est un candidat par défaut. Dans un premier temps, il surprend et suscite même l'indignation en tentant de négocier avec l'extrême droite. C'est pour parler échoue, mais il parvient ensuite à mettre d'accord les socialistes et les libéraux. Bref, il réussit là où le chancelier sortant, pourtant bien plus expérimenté, avait lamentablement échoué. L'enjeu maintenant pour Christian Stöcker sera de maintenir en vie ce mariage à trois, cette coalition tripartite qui n'a jamais eu de précédent en Autriche. Écoutez l'analyse de Jérôme Segal, enseignant et chercheur franco-autrichien.
Les Autrichiens vont vouloir juger sur pièce. Mais en embuscade se trouve déjà le parti arrivé en tête des élections du 29 septembre dernier, à savoir l'extrême droite, le FPE. Ils ont obtenu 29% et les sondages actuels montrent qu'ils sont déjà au-dessus de 30%. Donc il n'y aura aucun cadeau fait par l'extrême droite face à ce gouvernement de coalition.
L'extrême droite autrichienne qui réclame déjà des élections anticipées.
Oui, le FPE dénonce un gouvernement de perdants et se dit prêt à revenir aux urnes dès que possible. En attendant, l'extrême droite, portée par les sondages, espère s'emparer en avril prochain de la mairie de Vienne, une mairie tenue traditionnellement par les socialistes, mais qui semble désormais à la portée du parti d'extrême droite.
Merci Daniel Valot. Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Théo Raison. Retrouvez-nous en podcast sur notre site, sur l'application Pure Radio et sur les réseaux sociaux. À demain.